Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Bien, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ceux qui démarreraient cette émission dans Périgord littéraire. Alors, cette semaine, nous allons encore voir ce livre de Claude Baillet et Jean-Paul Malaval, Périgord qui a si jeûné au temps des marchands de paradis. Portrait et scène de petit métier. C'est édité aux éditions Midan en 1987, mais on peut peut-être facilement le trouver. Il n'est pas très grand, c'est un format italien. Alors, comme j'avais dit la dernière fois, en couverture, il y a une marchande de paradis et une légende en occitan, Mucalpa des Riflaux au mot d'âme. Alors, les marchandes de paradis, c'était des riflots, c'est-à-dire que quand les gens faisaient tailler les barres de châtaignier, il y avait bien sûr des morceaux qui restaient, et il y a des personnes qui venaient les récupérer, qui les vendaient pour allumer le feu et également la pointe des barres. Alors, pour tailler les barres, je précise, c'était une lame coupante avec deux poignées, une poignée à chaque bout, et l'on tirait dessus. Alors, les cabanes de feuillardier, je crois qu'il ne doit plus en rester beaucoup, mais si l'on prenait des barres de châtaignier, selon du châtaignier, et que l'on pliait en deux et que l'on couvrait justement avec ces fameux riflots en cas de mauvais temps. Voilà, ça ne devait pas être bien réjouissant. Puis après, ça se faisait, je crois, dans des bâtiments de la ferme. Alors, il y a évidemment les riflots, mais la richesse du Périgord, eh bien, ma foi, c'est la truffe. La truffe, alors, il y a une carte postale, ce livre, donc, comme je disais, fait de carte postale ancienne, et sur Périgueux, de Périgord cherchant les truffes. Alors, les truffes, ce sont les truies, ce sont les truies qui trouvaient les truffes. Alors, bien sûr, on leur prenait sous le nez, et on leur a donné un petit bout de temps en temps. Alors voilà ce que nous dit la question éventuelle que l'on pose bien souvent. La truffe est-elle aphrodisiaque? La truffe a la réputation d'être le joyau du Quercy et du Périgord. L'antiquité à nos jours, on enchante les louanges, le goût, la saveur, le fumet, mais aussi les vertus. Enfin, vertu est peut-être déplacée. Aphrodisiaque, les fabulistes périgordins, la Chambaudie, la vénère ainsi, ce tubercule au mystère qui se cache sous la terre, ainsi qu'un noir diamant, des cœurs fait fondre la haine, de la paix et le ciment, la beauté la plus timide et le vieillard languissant tout à coup, sente rapide au cerveau monter leur sang. Peut-être quand même pas exagéré, si on est trop vieux. Alors on utilise, et poursuit ainsi, on utilise des porcs pour les flairer autour des chaînes maigrelées. Flaubert, ce cher Gustave Flaubert, que tout bonheur terrestre ne peut laisser indifférent, donne la parole au cochon en ces termes. De mon goût immobile, dans les sables chauds, c'est moi qui va déterrant la truffe de Libye et qui écrase sous mes molaires sa chair savoureuse. Enfin, comme je disais, randonner un tout petit peu, de temps en temps quand même. Mais on leur prenait la truffe sous le museau. Alors, aphrodisiaque ou non, n'importe, qu'importe la vérité, et qu'elle a cette réputation dans l'esprit de tous, n'est-ce pas l'essentiel, raconte qu'au début du siècle, lorsque les truffes voyageaient par chemin de fer, en grosse quantité, il fallait réduire le temps de travail des employés à la gare de Souillac. Alors, je ne sais pas ce qu'ils faisaient à la gare de Souillac, mais voilà. Alors, pour la truffe. Et puis, il y a une carte postale qui est scène de la vie rurale, un marché à Sarlat, bien sûr, et tout le monde, les grands ou les jeunes, les petits et les vieux, sont avec la fameuse blouse qui couvrait la veste qui était en dessous et qui la protégeait en quelque sorte. Et donc, la légende est « Bourroki Kalloufa ». Alors, ça veut dire « tape là et il faut le faire ». Alors, les fois sont nombreuses en Dordogne, dans les années 1850, on en est dans les nombrées 122 communes qui en ont organisé, 4 à Périgueux, 26 à Bergerac, 14 à Mussidan, 4 à Ribérac, 3 à Nontron, 9 à Thiviers et bien sûr une à Sarlat, comme je disais. Ces foires sont les véritables bourses où s'établissait le cours des bestiaux et des denrées alimentaires selon l'offre et la demande. Les paysans ont la réputation de défendre amplement leurs intérêts. Souvent, un accordeur est nécessaire pour conclure les marchés qui s'éternisent. En palabres interminables, un accordeur qui sait y prendre gagne bien sa journée. Ce sont de longs conciliabules à mi-voix jusqu'à ce que l'accord de vente intervienne sur le ton de la bourrade. Bourroki Kalloufa. que Chopine. Pourquoi la Chopine? Et tout s'achève, évidemment, autour d'une Chopine ou d'un verre. Moi, j'ai bu une fois Salignac avec l'accordeur, comme ça. C'était assez amusant, parce que je crois que c'était Albier. Et il est reparti à sa voiture, il dit « Oh là, c'est, je vais y perdre », etc. Puis il revenait, et tout le monde l'attendait. Et puis tout ça, bien sûr, se terminait, comme on l'a vu, se terminait au café. Alors, il y a, bon, on va revenir un peu aux noix. Alors, il y a les dénoisilleuses, c'est-à-dire en Quercy, et puis les énoiseuses en Périgord. Alors, il y a, moi j'ai sous les yeux donc, de ce livre, une carte postale où on voit une vieille dame qui casse des noix avec un petit maillet en bois qu'on appelait autrefois une tricote. On trouve toujours des tricotes d'ailleurs. Voilà, c'est sur une pierre plate, et les noix allaient dans une caisse. Alors, sur cette carte postale, il y a un poème. Alors, je vais vous le donner, les énoiseuses en Périgord. Quand vient l'hiver, chaque soir, près du feu, laborieuses se groupent les énoiseuses. Dans notre Périgord noir, que de bavettes l'on taille, ici tout haut, là tout bas. Et si le marteau travaille, la langue ne chôme pas. Pam, pam, crac, crac, la noix casse. Presque à mesure et loquace, chaque énoiseuse à son tour prend la parole et raconte quelques contes. Ou des nouvelles du jour. Vers la fin de la veillée, si l'hôtesse est avisée, elle offre du vin éclairé, sans que personne s'en plaigne. En épluchant la châtaigne, quelqu'un entonne un couplet, et toutes, sans crier gare, prennent en cœur le refrain. Après quoi, l'on se sépare en se disant « à demain ». C'est ainsi que chaque soir, en hiver laborieuse, procède les énoiseuses dans notre Périgord noir. Alors, Périgord noir, en gros, c'est le Sarladé. Alors, ce poème est signé, mais je ne sais pas de qui, c'est C2S. Alors, je ne sais pas si quelqu'un connaît le véritable nom de la personne, donc qui commence par un S, eh bien, il peut le communiquer à Radio Périgord. Voilà, donc, les casseuses de noix. Alors, en Périgord, les plantations de noyers atteignent un certain essor au 19e siècle. Vers le milieu de ce siècle, les documents attestent que les noyerés représentent une superficie de 85 000 hectares, un chiffre d'affaires d'un million de francs l'an. Le soir, à la chandelle, dans les foyers, on casse les noix pour un rapport minime. Les cerneaux sont vendus pour la fabrication de l'huile de noix. Les énoiseuses, donc, les cassent avec un petit maillet, donc une tricote, comme je disais tout à l'heure, en bois, sur une planchette, et le plus long de l'opération, bien sûr, de séparer les brisures de coquilles du fruit. Alors, ce ne sont pas des brisures, en réalité, il ne fallait pas les casser. Une façon de taper sur la noix, hein, pour qu'elle se casse en deux sans que ça abîme, sans abîmer le fruit. Alors, tout en travaillant, la tradition veut que l'on chante, et puis on parle, je le donnais en français, épine, épine, casse beaucoup de noix pour la fille de la maison qui soupire pour le garçon. Dans mon cœur, quelle soirée, épine, épine, casse beaucoup de noix. Alors, la suite de ce chant, c'est des filles qui ont perdu patience, ont fait passer le cacalou. Cacalou, c'est une petite noix. Une petite noix, et donc on ne la cassait pas, et on la faisait passer soit à son amoureux ou à son amoureuse. Voilà. Bien, alors bien sûr, comme je disais, il y a les hommes des bois, il y a les charbonniers. Alors les feuillards, je vais vous donner ça, alors ça vient des types de chez nous. Hutte de feuillardier, comme je disais, bon, c'était, comment je pourrais dire, des châtaigniers que l'on pliait en deux et qu'on couvrait avec des copeaux. Les feuillardiers et les charbonniers sont les hommes des bois. Les feuillardiers coupent les picadies, c'est-à-dire les petites châtaigneraies de 5 ans, pour en dégager les lattes, les palis, les planches qui vont servir à fabriquer la futaie, entre autres. Quant aux charbonniers, ils abattent et amassent la matière première pour la fabrication du charbon de bois. C'est un travail de titan. 400 stères pour une dizaine de fourneaux. Feuillardiers et charbonniers vivent exclusivement dans les bois, logent dans des huttes rudimentaires. Et voici le tarif des feuillardiers, alors en 1900. Hein. Feuillard de 7 pieds, 8 francs le 1000, de 10 pieds, 14 francs le 1000, de 15 pieds, 30 francs le 1000, et de 18 pieds, 50 francs le 1000. Alors, je n'ai pas fait la conversion, je vous dirai, vous pouvez toujours la faire. Voilà, alors, évidemment, les châtaigniers les plus petits, mais ça servait à faire les cerceaux pour les barriques. Alors, il y a la fameuse marchande de paradis dont on a déjà parlé. Alors, on est route, au début du siècle, on rencontre ces marchands errants qui tentent de survivre, tels les marchands de paradis, ainsi que l'écrit Jean-Paul Chavan, le paradis sans majuscule et tout prosaïquement, le nom des copeaux et des écorces de châtaignier, c'est le résidu du travail des feuillardiers que des femmes allaient chercher dans les collines et revendaient aux gens des villes qui s'en servaient pour allumer le feu. Et également, quand on coupait les barbes et on prenait le bout de ces barbes, on faisait des fagots que l'on vendait. Alors, bien sûr, il y a d'autres, il y a d'autres marchands, il y a les marchands de peau. Alors, les marchands de peau, en Quercy et en Périgord aussi, au début du siècle, se sont défilés d'une population errante qui pratique des petits métiers à la demande pour gagner quelques pièces. Le pillaro achète toutes les peaux, les vieux chiffons, mais aussi les plumes d'oie et le duvet, surtout des peaux de lapin qui servent à confectionner des manteaux. Ces achats sont marchandés. Le pillaro ouvre toujours, trouve toujours quelques défauts aux peaux convoitées, justifiant un prix plus bas. La fermière cède souvent pour se débarrasser. La peau qui a le plus de valeur est celle du renard. Jadis en Quercy, en Périgord, quand un chasseur avait tué un renard, il le promenait la pièce pour le remercier d'avoir éliminé un ennemi résolu des poulaillers. Donc on lui donnait la pièce à chaque fois. Voilà. Alors, donc je crois que les peaux de lapin, ça servait aussi à fabriquer des cols. Voilà, pour coller les tissus, le papier, etc. Alors bien sûr, il y a des artisans, il y a des petits métiers. À Périgueux, les artisans et les faiseurs de petits métiers ont pris la place dans les ruelles de la vieille ville. Des chaisiers, les savetiers, les lanterniers, les licoristes, les chapeliers, les cloutiers, les marchands de parapluies, les cordiers, tout un monde hétéroclite, adapté à la vie citadine, s'organise au début du siècle. Les premières expositions dites nationales de Périgueux, où chacun vient faire étalage de ses produits. Voilà, et donc il y a une carte postale d'une société qui s'appelait Dupeyra, et qui fabriquait des cordes et qui avait eu un grand prix à l'exposition nationale de Périgueux en 1908. Ça ne nous rajeunit pas. Bien, alors, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais il y a eu, par exemple, à Bergerac, la visite du président Falière. Alors, bien sûr, il y a eu des cartes postales, et on voit une rue de Bergerac qui est ornée avec arc de triomphe, faubourg de la Madeleine, côté du faubourg, voilà, et fête présidentielle du 15 novembre 1913. Ça va changer. La visite du président est une fête. Tout est occasion de fête. On fête les vendanges, la mort du cochon, les battages. Il y a aussi l'obote, c'est-à-dire la fête votive, la fête officielle à laquelle toute la communauté participe. Les fêtes exceptionnelles, celles qui commémorent des événements hors du commun, comme la visite du président Falière à Bergerac. Ce jour-là, l'usine, les écoles, les ateliers sont fermés. Tout ce monde de diverses obligations se déverse sur les trottoirs et constitue un auditoire inespéré pour le premier personnage de l'État. Les villes qui accueillent le président rivalisent les festivités pour mieux le recevoir que leurs voisines. Il y a au programme la traditionnelle visite du mur et un banquet avec le discours tant entendu. On guette les bons mots de président Falière qui n'en était pas avare. Alors, pour la visite du président, il y avait ça, mais moi je me souviens, par exemple, à Sarlat, avec les usines, le jour, il y avait deux foires, hein, une au mois de décembre et une au mois de juin, je crois, ou juillet, et donc les usines fermées, pour que les femmes puissent aller à la foire tranquillement. Et après, les usines ne fermaient pas, mais ceux qui demandaient leur journée pouvaient l'avoir, assez facilement. Alors bien sûr, tout ça c'est bien beau, mais il faut pouvoir se déplacer. Et à Plazac, par contre, en Dordogne, arrive l'autobus. Alors c'est pareil, ça date du début du siècle. Alors voilà, le transport en Périgord jusqu'à l'orée du siècle, les transports de marchandises effectués à dos de mulet ou par charrette. On utilise aussi la voie fluviale des gabariers de la Haute-Dordogne entre Bordeaux et Bergerac. Le transport est intense, surtout pour le blé. Puis la route de Bergerac à Périgueux, les messageries feront leur apparition vers les années 1860 avec l'amélioration des routes et la mise en place dès 1854 du chemin de fer construit par la compagnie Paris-Orléans. Première locomotive sont entrés à Périgueux en 1854 dans la liesse populaire. Ces autobus avancent péniblement, surchargés de gens et de bagages. Ce mode de transport est certes coûteux, mais constitue un considérable progrès par rapport à la diligence Le trajet Paris-Bordeaux en berline, tracté par 4 chevaux, coûte 13 000 francs d'aujourd'hui, 1987. Voilà, alors écoutez, là je crois que mon temps est terminé, mais je vous donne, il y a la Félibrée à Montignac le week-end prochain, mais je vous donne rendez-vous tout au moins pour la semaine prochaine. Au revoir et à bientôt.
C'était Périgord Littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.